1h05, c'est la dernière partie de la grande table, Caroline Brouet.
Une dernière partie dans le cadre de la journée, Antoine, Idées sans frontières en partenariat avec l'Institut français qui organise ce soir à Paris une nuit des idées exceptionnelle et inédite en présence d'artistes, de chercheurs et de penseurs du monde entier pour imaginer le monde de demain. L'un de ces invités, ou plus exactement l'une de ces invités, est avec nous en studio, c'est Saskia Sassen. Bonjour et bienvenue.
I'm delighted to be here.
Merci de me recevoir.
Saskia Sassen, vous êtes sociologue, vous êtes économiste, vous êtes spécialiste des rapports entre territoire et souveraineté, professeur à l'Université de Columbia à New York. En 1991, vous aviez signé un ouvrage qui avait fait beaucoup de bruit, notamment dans le monde universitaire. Il s'intitulait The Global City, New York, London, Tokyo. Il est sorti quelques années plus tard en France. On peut dire qu'avec ce livre, vous aviez vous-même forgé le terme de ville globale ou de ville mondiale, et c'est un nouveau terme que vous forgez aujourd'hui pour expliquer notre mondialisation à travers un livre qui paraît en français aux éditions Gallimard sous le titre Expulsion, brutalité et complexité dans l'économie globale. Je précise à nos auditeurs que Sylvain Bourmeau est à mes côtés pour pouvoir vous interroger, Saskia Sassen. Sylvain Bourmeau connaît bien vos travaux et depuis longtemps, il est producteur de la suite dans les idées sur France Culture et professeur associé à l'École des hautes études en sciences sociales. Voilà qui est précisé pour nos auditeurs. D'abord un mot avant d'entrer dans ce livre, Saskia Sassen, et dans ce concept d'expulsion. Un mot sur cette nuit des idées inédite, donc organisée par le Quai d'Orsay, participer en tant qu'intellectuelle américaine à des rencontres en France entre chercheurs. Vous allez participer ce soir à une discussion avec l'historien professeur au Collège de France, Pierre Rosanvallon, autour de la notion de citoyenneté. Qu'est-ce que cela fait pour vous de participer à un événement comme celui-là?
I love it.
Je suis très contente. Je vais dans le monde entier pour faire des choses comme ça. Et d'une certaine manière, c'est comme se jeter dans une situation qui est riche, dense, qui est très ancrée, très enracinée, parce que c'est ici, dans un moment donné, un lieu donné, ce n'est pas un lieu anonyme où, par exemple, les experts se rencontreraient. Donc, j'attends ce moment avec impatience. Je n'ai pas encore écrit l'intégralité de mon texte. Parce que ce qui m'intéresse là, c'est de dialoguer. Évidemment, les conditions vont être très stimulantes, puisque je ne suis jamais allée au Quai d'Orsay. Ça va sans doute stimuler un certain nombre d'images dans ma tête. J'aime beaucoup faire ça. Souvent, je parle à des publics qui appartiennent à des mondes différents. Par exemple, l'art. J'arrive de Singapour, où j'ai parlé sur l'art. Donc, je me sens bien dans ce genre de situation. Contexte.
Je dis que c'était une soirée inédite. Vous me répondez que vous aimez beaucoup ça parce que vous le faites beaucoup et à travers le monde. Est-ce que vous êtes surprise, Saskia Sassen, que on est très peu finalement d'organisations de débats comme cela à Lyon, à la Villa Gilet, régulièrement, on organise de ce genre de débats avec des invités qui sont des invités qui viennent du monde entier, mais c'est assez rare en France. Est-ce que ça dit quelque chose de notre pays et du vôtre?
Well, I do think that this particular event
is different. Je crois que cet événement en particulier est différent. Le fait qu'il se déroule au ministère des Affaires étrangères d'un pays le marque de manière différente. Et il y a eu bien évidemment ces attentats terroristes à Paris qui l'a aussi introduit une différente. La notion également que cet événement va durer jusqu'à 2h du matin indique bien que le fait que la nuit nous appartient, elle appartient aussi citoyens. Et ce sont donc les différences. Et je crois que c'est quelque chose de formidable. Et je crois que c'est quelque chose qui est très bien, très intéressant. Et je pense qu'il y a des débats politiques autour de cet événement par rapport à pourquoi est-ce qu'un gouvernement est l'hôte d'un événement comme ça. Voilà, je ne peux pas juger là-dessus. Moi, je pensais que c'était l'Institut français seulement.
Bon ben voilà, c'est pas seulement l'Institut français, vous le voyez. Oui. Nous sommes d'ailleurs en partenariat à France Culture évidemment avec cet événement. Venons-en à votre livre Expulsion, Saskia Sassen. Ce livre, c'est une réflexion de plus sur la mondialisation ou la globalisation qui est votre objet, sujet d'étude depuis de nombreuses années. Est-ce que ce livre participe d'une forme d'engagement, et là je fais le lien avec les questions précédentes, l'engagement d'une intellectuelle comme vous l'êtes, puisque en France France. On a l'impression que le débat est en train d'évoluer sur la place des intellectuels en France. Certains, justement, depuis les événements que vous avez cités de novembre dernier, prennent une position plus, on dit engagée, c'est-à-dire plus politique dans le débat, disent ou affirment qu'il faut sortir d'une position de retrait, d'observateur de la vie publique pour prendre position dans le débat, en particulier pour l'organisation de primaires à gauche, par exemple, des intellectuels sont sur le devant de la scène. Donc la chose est en train de changer. Est-ce qu'avec ce livre-là, vous estimez que c'est une façon de mettre ou de remettre de la critique autour d'une notion ou d'une réalité, d'ailleurs, la mondialisation, qui est quand même largement acceptée aujourd'hui?
Well, I think the critical point here is that there are
many c'est qu'il y a beaucoup de mondialisation et elle n'est pas unique. Je crois que quand les femmes philippines, les pauvres immigrantes philippines qui sont basées à Amsterdam arrivent à monter un réseau international pour traquer les trafiquants d'êtres humains philippins, je crois que là on est sur un événement global. Et je crois qu'il faut vraiment comprendre de quoi on parle. Franchement, j'essaye d'éviter ce terme mondialisation utilisé seul, parce que c'est quelque chose de trop lâche et donc de fait le terme devient inintéressant. Et voilà pourquoi j'ai parlé de ce terme expulsion. Quand j'ai parlé de la ville globale, j'ai pas seulement parlé de globalisation ou mondialisation, j'ai parlé de ville globale, qui créait une tension entre les deux, parce que les deux termes étaient vus comme incompatibles. Hein. Pour moi, donc, cette question de la mondialisation se constitue au niveau national et la partie la plus trompeuse et la plus complexe et donc la plus intéressante en termes de mode, c'est quelque chose qui se constitue au niveau des nations. Donc, ça le rend brouillé. Il faut donc décoder, est-ce que c'est bien mondial, international ou est-ce que c'est national ? Et évidemment, les choses qui sont d'évidence globale ne sont pas si intéressantes. Et donc, chaque centre financier, donc où là, le secteur financier qui est le plus numérisé et le plus global, en fait, chaque secteur financier est différent de l'autre. Ce qui fait un centre financier, c'est une différence de spécialisation, pas ce qu'il partage, parce que ce qu'il partage, c'est l'infrastructure. Et l'infrastructure et voilà ce qu'on appelait en fait hein, les immobilisations ou les bâtiments. Aujourd'hui, c'est effectivement les infrastructures. Donc, je creuse. Et c'est amusant, en fait, d'une certaine manière.
Alors, je repose la question différemment, Saskia Sassen. Comment en êtes-vous venu à ce concept d'expulsion et que recouvre-t-il pour mieux qualifier, pour être plus précis, en parlant de la globalisation?
Well, thank you for that question.
Alors, really merci de cette question.
So, hein. I argue that we,
je dirais que
we scholars, we researchers,
nous, intellectuels, chercheurs, mais aussi les politiciens ou les autres observateurs, nous sommes confrontés à une série de problèmes qui concernent les catégories que nous utilisons pour capturer, pour comprendre ce qui se passe dans le monde. À un certain moment, ces catégories deviennent inefficaces et elles ne permettent plus de capturer, de capter ce qui se passe. Et quand ces catégories deviennent inutilisables, c'est là que je parle d'expulsion. C'est comme si, d'une certaine manière, toutes ces conditions qui étaient très réelles, très matérielles, qui concernaient beaucoup de gens, étaient invisibles à nos catégories. Elles ne sont pas invisibles à nos yeux, mais elles sont invisibles. Tous ces gens sont invisibles à ces catégories. Je vais vous donner un exemple un peu plus simple, peut-être. Par exemple, on parle du chômage de très très longue durée. travailler. Hein. Ces gens qui n'ont jamais travaillé, en fait. Et ils ne sont pas mesurés par les catégories de chômeurs. Et en fait, lorsqu'on les inclut, on ne saisit pas la réalité de ce que ça signifie d'être un homme de 33 ans à Harlem qui n'a jamais travaillé. Hein. Appeler cette personne ou la qualifier de chômeur de longue durée, ça ne dit rien sur cette personne. Hein. Et c'est la même chose avec les terres mortes et les eaux mortes. Hein. Une fois qu'une terre est morte, on lui tourne le dos, elle devient invisible dans sa matérialité, parce qu'elle est invisible. Donc voilà, c'est certaines des questions qui m'intéressent.
Sylvain Bourmont.
Expulsion est un livre extraordinairement ambitieux, risqué aussi, mais à la mesure des risques qu'il faut prendre, sans doute, pour essayer de comprendre ces changements profonds auxquels on assiste, qui touchent aussi bien l'environnement que les modèles économiques, que les sociétés qui sont les nôtres. Et vous venez de le dire, Saskia Sassen, dont on a du mal à prendre conscience, tant les catégories avec lesquelles on réfléchit d'habitude ne sont plus opérantes, et tant ces catégories viennent à servir au fond d'écran plutôt que d'outils pour comprendre ce qui se passe. Alors, vous avez adopté une méthode que vous avez déjà mis en œuvre dans des livres précédents. Je pense notamment à un travail sur la frontière et qui consistait à vous intéresser non pas aux frontières telles qu'on les voit sur les cartes habituellement, mais à des frontières nettement plus invisibles qui traversent la planète et nos sociétés pour les mettre en évidence avec vos manières d'enquêter. Non pas avec une grande théorie, parce que vous partez toujours de situations concrètes. Et à partir de ces situations concrètes, vous chercher à forger de nouveaux outils. Moi, j'aimerais que
je
vous
suis hollandaise. Le concret, là.
Voilà, c'est sans doute l'explication. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez quelque chose qui peut paraître paradoxal et qui est au cœur de votre réflexion dans Expulsion. C'est l'idée que nos sociétés, à force de différenciation sociale, deviennent de plus en plus complexes. Ça vaut pour l'économie, ça vaut pour la science, ça vaut pour tous les domaines. Mais que cette complexité, contrairement peut-être à ce qu'on aurait pu imaginer, ne produit pas des choses nécessairement subtiles, mais produit au contraire des choses extraordinairement brutales. Comment on peut expliquer ça ?
Moi, je trouve que ça, c'est une contradiction très intéressante. Je suis très contente que vous l'avez compris. Je m'excuse, je parle en français maintenant. C'est inévitable. So I will now switch to English to make. So it seems to me that.
Quand j'ai développé ce modèle de la ville globale, il me semblait qu'à son cœur figurait la fonction d'intermédiation. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à saisir. Et je pense que cette question de l'intermédiation permet la brutalité que l'on voit se développer partout de manière indisciplinée et en même temps, elle permet une complexité incroyable. Et la finance, c'est l'intermédiation ultime, on va dire. Extrêmement complexe, ce qui lui permet de bouger partout où elle veut. Elle peut tout financer. Ça, c'est un point. Un deuxième type d'idée auquel vous faisiez allusion, c'est effectivement la délocalisation pour avoir des employés très bon marché. Hein. On en parle beaucoup, mais ce qui ont été ratés par les analystes, c'est que le bénéfice premier de ces travailleurs peu chers, hein, c'est la question de la surévaluation des actions. Hein. Et là, il y a effectivement un effet démultiplicateur énorme pour toutes ces multinationales. Et par exemple, quand on parle du fracking, des exploitations minières, l'ingénierie et ça, qu'est-ce qui reste après ? C'est-à-dire une destruction absolue qui ne peut pas être récupérée. Donc, ce sont des choses comme celles-ci qui m'ont amené à cette notion hein, de l'expulsion. Et par expulsion, on peut le dire différemment, c'est-à-dire je vois une multiplication de frontières systémiques qui s'installent à travers un territoire et elles ont toutes un sens sens extrêmement profond. Et ce qui traverse ces frontières systémiques, on a du mal à le déceler, on a du mal à le voir. Et finalement, je parle aussi d'expulsion comme d'un événement radical. Nous devons nous souvenir que, au sein de nos économies, dans nos sociétés occidentales, il y a une multiplication des riches. Si on regarde l'ordre visible dans nos cités, tout a l'air mieux. Donc, voilà, on a des plus beaux aéroports, des plus beaux bâtiments. Mais comment faire cette rupture radicale qui fait qu'une grande partie de la misère devient plus inaccessible et plus invisible? Et voilà certaines des questions qui sont en jeu.
France Culture, la grande table, Caroline Brouet.
Avec aujourd'hui notre invitée, la sociologue Saskia Sassen, qui publie un essai très intéressant autour de la notion d'expulsion, brutalité et complexité dans l'économie mondiale, un livre édité chez Gallimard, et Sylvain Bourmeau autour de la table pour poser des questions à notre invitée. Saskia Sassen, justement, Sylvain parlait de votre méthode de travail, la façon dont d'un livre à l'autre, dont d'une enquête à l'autre, vous y preniez, c'est-à-dire partir de situations qui sont très concrètes. Vous nous avez cité tout à l'heure l'exemple des chômeurs de longue durée. J'aimerais malgré tout que vous nous donniez d'autres exemples que vous prenez, que vous développez dans votre ouvrage, parce que pour des lecteurs français comme nous, c'est assez déroutant, cette méthode particulière qui consiste à regarder de façon très large des situations un peu partout et à mettre à les réunir sous un concept qui est celui d'expulsion aujourd'hui, alors même que vous pouvez parler d'exclusion, d'extraction, d'éviction et de rassembler ça sous le terme d'expulsion. La Grèce, les chômeurs, le gaz à effet de serre, voilà, comment arrive-t-on à regrouper tout cela sous un même concept?
Well, the book, of course, could have been 2,000 pages
long. Le livre aurait pu faire 2,000 pages, hein. C'est un fait.
So, il en fait moins de 300 en France. But my,
exactly, but my attempt.
Mais ma tentative a été de commencer par une perspective très particulière qui était d'avoir besoin de revenir en fait au concret pour voir de nouveau. Hein. Comme le disaient les Grecs par rapport à la signification du mot théorie. Et donc j'ai commencé à creuser ou rentrer dans un certain nombre de situations, et j'ai fait cette hypothèse à moi-même, qui était que se passerait-il si ce que nous avons construit théoriquement comme des mondes très très différents, par exemple les réfugiés d'un côté, les emprisonnements de longue durée, et dans le livre j'ai un argument qui dit il faut qu'on commence à se demander si tous ces gens qui d'une certaine manière sont séparés de leur vie complexe, que ce soit des réfugiés ou que ce soit gens en prison, on doit se demander s'il n'y a pas quelque chose de similaire qui se passe. Donc, du coup, je veux dépasser les divisions que les sociologistes, les politiciens ont pu créer pour arriver à contenir et analyser en profondeur ces situations très différentes. La deuxième chose très importante, c'est que je peux seulement faire ce que j'ai fait dans ce livre parce qu'il existe des spécialistes dans chacun de ces domaines qui ont étudié tous ces sujets en détail. Hein. Personnellement, ça ne m'intéresse pas vraiment de faire ce travail-là. Ce qui m'intéresse, c'est de poser la question d'une transformation d'époque et de voir jusqu'à quel terme on a séparé tous ces gens. Qu'est-ce qui se passerait si on regardait tous ces gens expulsés, tous ces gens déplacés? Qu'est-ce qu'ils partagent? Qu'est-ce que les pauvres fermiers, les pauvres agriculteurs de l'Afrique subsaharienne qui perdent leurs terres, qu'est-ce qu'ils partagent avec des travailleurs de toutes petites entreprises hein, qui petit à petit petits se voient remplacés par des franchises. Qu'est-ce que je vois, hein? Donc c'est vraiment revenir au niveau du concret. C'est une fiction, hein, bien sûr, pour un universitaire.
Et vous citez également les expulsions de quelques 9 millions d'Américains depuis de leur foyer, là, réellement, depuis la crise de 2008. Et vous parlez justement d'une transformation d'époque. Or, il est une époque qui revient très souvent dans votre ouvrage, Saskia Sassen, c'est les années 1980. Vous faites des années 80 un tournant. Oui. Est-ce que ce phénomène d'expulsion que vous décrivez s'est intensifié depuis 30 ans, selon vous?
Ah oui. Yes, I'm sorry.
It's okay.
I am anarchic, what can I say? But,
anarchiste. Donc oui, tout à fait. Hein. C'est quelque chose qui est en expansion. Il y a des origines et il y a des lieux, en fait, hein, d'origine. Les États-Unis sont une bonne place, hein, pour parler de l'expérience et de comment ça s'est passé. C'est ça ma question. On a fait ça. Ça ne nous est pas arrivé du ciel, hein. Ces transformations incroyables. On les a façonnées. Et je veux comprendre comment on les a faites. Je veux essayer de comprendre quelles sont les formes complexes de savoir que ça a demandé pour arriver jusque-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste après, hein? Je dis pas, c'était formidable et c'était génial. C'est un véritable problème. Et, du coup, je ne dis pas que je suis quelqu'un qui est une adepte du keynésianisme, mais en tout cas, il y avait un résultat, c'était que la croissance des secteurs de pouvoir, ça a effectivement demandé des capacités de consommation de beaucoup, beaucoup de gens, parce que c'est ça qui a créé les nouveaux paradigmes. Et ceci a signifié que beaucoup de travailleurs ont pu organiser des syndicats forts. Ça a signifié que plus la classe moyenne était prospère, hein, et les gouvernements ont permis ça avec un système de santé gratuit, avec des subventions. Et donc, du coup, plus ils pouvaient consommer, cette classe moyenne. Et ça, c'est terminé, hein. Et c'est aujourd'hui ce qui domine notre économie d'extraction. Je définis la finance qui est absolument différente du système bancaire traditionnel comme un secteur d'extraction, exactement comme la mine. C'est-à-dire, on va, on prend, et puis après, on s'en va. Et quand on parle du secteur de la consommation, vous voulez, si vous êtes un consommateur, vous souciez de ce que votre fils et votre fille auront. Hein. Je dis que c'est intéressant, historiquement parlant, que quand la consommation de masse domine, hein, on a vu l'expansion de la classe moyenne. Donc ce sont des juxtapositions comme ça que j'ai faites et il me semble qu'aujourd'hui on est dans une économie de l'extraction.
Sylvain Bourmont.
Vous parliez des années 80 comme d'un moment clé, un moment de bascule. On est encore dans cette bascule déjà bien amorcée. Mais pour comprendre véritablement ce qui se passe, vous avez une référence à une autre bascule, une bascule antérieure. Vous dites qu'au XVIIIe siècle, en Grande-Bretagne, on ne voyait pas très bien ce qui était en train de se passer. Le passage d'une économie rurale à une économie industrielle, on voyait d'un côté beaucoup de moutons dans les champs, de l'autre de plus en plus de machines dans les usines, mais on ne voyait pas le lien entre les deux. Or, en fait, la laine des moutons allait de plus en plus dans les machines avec ses métiers à tisser, et on était en train de basculer, ce qui est une réalité qui échappait à la plupart des gens qui étaient les contemporains de ce moment. Et vous dites, aujourd'hui, on est un petit peu dans le même genre de situation, et on a du mal à visualiser véritablement ce qui se passe. D'où votre travail qui consiste à mettre en évidence ces frontières invisibles. Et vous allez jusqu'à parler, et je pense qu'il faut être très clair là-dessus pour qu'il n'y ait pas du tout de malentendus de la part des auditeurs, vous allez jusqu'à parler de tendances souterraines dont on peut faire l'hypothèse. Je dis pas de malentendu parce qu'on pourrait y lire des formes, on vit une époque compliquée en matière de communication, des formes de théories du complot divers, c'est pas du tout évidemment votre perspective, mais vous cherchez à mettre en évidence des logiques, des frontières systémiques, dites-vous, des choses qui pourraient permettre de comprendre ce qu'il peut y avoir de commun dans des entités qui nous semblent totalement différentes parce qu'on est prisonnier de catégories comme la la Chine qui ne serait pas un pays capitaliste et puis les États-Unis qui le seraient, alors qu'en fait on y observe des choses qui ont beaucoup plus probablement en commun que de différents.
Oui. Saskia Sassen.
So I love that you brought this up.
Oui, j'adore que vous ayez rappelé ceci, hein, parce que ce moment en Grande-Bretagne, c'est un moment très important pour moi, que je ne développe assez peu dans le livre, mais je travaille précisément sur cette question par rapport à la méthode. Et j'appelle ça l'espace avant la méthode. Et comme vous le savez, il y a eu beaucoup de livres écrits sur après la méthode, et ça, c'est avant. Hein. Et je décris ça comme une zone où je veux me sentir libre de me positionner par rapport à mes études objectives vers là où je veux. Et je parle de ma tactique analytique. Et juste pour vous donner un avant-goût, on va dire, il y a un paradigme fort ou une caractéristique paradigmatique qui ne peut pas juste être écarté en disant « je l'aime pas », mais on peut l'interroger. On peut se demander, mais qu'est-ce que je ne vois pas quand j'invoque cette catégorie? Et c'est intéressant. Et deuxièmement, ces catégories fortes sont d'une certaine manière comme un projecteur fort dans une rue sombre. Et évidemment, plus la lumière est forte, plus vous voyez ce qui est dans le cercle, mais plus il devient difficile de voir ce qui est dans l'ombre autour de ce cercle de lumière. Donc ma méthode, elle est un peu comme ça, ma méthodologie est un peu comme ça. Donc j'aime beaucoup cette idée hein, de ce qui est souterrain, c'est la notion de ce que conceptuellement on appelle souterrain au sens de sous la terre. Et ce que nous verrions si on regardait, c'est une série de connexions, les réfugiés déplacés et les prisonniers à long terme aux États-Unis. Et la question, c'est toujours... qu'est-ce qui se passerait si on pouvait déthéoriser? Ça veut dire qu'on verrait des tas de phénomènes qui se produisent dans différents endroits du monde, pas insérés dans un système, mais qui nous racontent un certain nombre d'histoires. Mais on n'arrive pas à capter ces histoires avec nos catégories fragmentées. On a un nord, un sud dans la mondialisation. Et ma méthode, c'est de retrouver tout ça. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller, mais en tout cas, c'est une invitation pour les gens qui possèdent un savoir dans différents champs de adopter une méthode comme celle-ci.
Précisément, Saskia Sassen, vous dites que vous ne savez pas encore vers quoi vous allez. Ce livre qui paraît aujourd'hui en français, vous l'avez écrit il y a deux, trois ans, disons. Est-ce que depuis que vous avez perçu ce lien entre différentes choses, différentes situations, différentes réalités, et que vous avez vous-même fait le lien entre ces différentes situations en forgeant ce concept d'expulsion, vous vous êtes rendu compte que finalement c'était un concept illimité, que vous avez d'autres faits que vous pourriez maintenant faire entrer dans ce livre qui ne fait que 300 pages oui. en français, mais 2000 à l'origine, donc qui pourrait oui. faire 3000 pages, ou bien vous vous rendez compte que vous avez fait le tour de cette réalité. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être amené à se développer, à s'étendre à d'autres réalités?
That's a good question. So there are two
non, c'est une bonne question. Je crois qu'il y a deux vecteurs. D'un côté, c'est que il y a beaucoup de gens qui s'emparent de mon travail et qui font des recherches hein, dans le monde entier à partir de mon travail. Il y a beaucoup de choses que je ne peux évidemment pas faire seule, mais j'essaye déjà d'essayer de rentrer dans ce nouveau niveau souterrain et j'écris un livre pour Harvard également sur la question du territoire. Le territoire pour moi est une catégorie complexe qui est seulement partiellement matérielle. Il y a des notions de pouvoir qui sont également attachées à la notion de territoire, hein, et notamment les territoires libéraux. Et il y a également des logiques effectivement de revendication, on va dire. Mais le territoire en tant que catégorie complexe a été on va dire réduit à un seul sens, une seule acception, c'est-à-dire le territoire national. Et évidemment, il y avait cette question de la planification très appliquée ici, hein, mais c'est autre chose. Mais en tout cas, je veux qu'on réfléchisse à cette notion pour la faire fonctionner, et c'est pour ça donc que je cherche à réfléchir à cette nouvelle géographie de la centralité qui opérerait une séparation des différentes notions de nord, de sud, est et d'ouest, hein, qui n'ont pas grand-chose à voir avec les vraies notions de territoire. Les villes globales sont des véritables ancrages, mais aussi les plantations ou les exploitations d'hiver. Donc, cette notion qu'on a de territoire n'est pas intéressante. Ce qui est intéressant, c'est la question du territoire comme une terre non cultivée. Et puis également, la notion également de cette massive perte d'habitat. Et c'est reprendre la langue des réfugiés et des migrants. Et ça ne nous aide pas. Hein. Quand on voit ces réfugiés, on doit se demander qu'est-ce qui se passe là d'où ils viennent. Et effectivement, là d'où ils viennent, hein, c'est un chaos complet. Ce sont des terres dont ils sont dessaisis, ce sont des exploitations minières sauvages, etc. Et je vois le monde un peu différemment, je crois, hein, et sur les migrations également. Et ça commence à rentrer dans cette notion qu'il existe une notion planétaire du système internation, inter-État-nation. Et je pense que d'une certaine manière, ça a de moins en moins son rôle à jouer, hein, dans tout ce qui se passe dans le monde et par rapport à la question de la démocratie. Si vous regardez par exemple ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'au lieu de consolider l'espace européen comme une zone forte qui pourrait s'opposer à des lieux comme l'Australie ou les États-Unis, et d'une certaine manière, on voit bien que l'Europe est en train de se fragmenter, ce qui va l'affaiblir. Hein. Donc il y a encore beaucoup de choses à dire.
Sylvain.
Non, c'est juste en creux, effectivement, ce qu'on lit du livre et qui est assez inquiétant, c'est puisque vous décrivez un phénomène qui n'est plus, comme le capitalisme du 19e siècle, une inclusion perpétuelle des hommes, mais au contraire l'expulsion de beaucoup d'entre eux, la question qui se pose et qui est assez terrifiante, c'est comment, une fois expulsés de l'extérieur, tenir un discours critique, comment engager des actions politiques contre ces tendances. Est-ce que c'est encore possible? Quel espace public permettrait, depuis le fait même de le statut d'expulsé, de prendre la parole?
Un peu d'espoir, quoi.
C'est ce que ça c'est. Une
petite chose et puis une petite clarification également. D'abord, mon espace des expulsés, hein, est un petit espace, mais il est extrême. Il s'agit d'une zone, il y a une zone, en fait, de richesse qui continue de s'étendre et qui tend à nous faire croire que tout va bien. Et la raison de se battre pour arriver à récupérer un monde meilleur pour beaucoup de gens, ça va demander de se retrousser ses manches. Il va falloir construire socialement, politiquement. J'ai pas la connaissance nécessaire pour arriver à construire tous ces espaces, mais je crois qu'on doit construire tout ça partout. Hein. Je pense que dans le Nord, il faut relocaliser des secteurs de l'économie en dehors de franchises. Je pense que nous avons besoin de mobiliser, nous devons permettre, voilà, il y a beaucoup de travail à faire.
Beaucoup de travail, encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à lire dans cet ouvrage Saskia Sassen qui paraît en français. On entend monter un son que vous connaissez, que vous appréciez particulièrement. Nous terminons toujours cette émission Saskia Sassen avec le choix musical de notre invité. C'est Astor Piazzolla avez choisi.
Oui, oui.
Un vieux.
Très bien. Je l'ai connu.
Un vieux Astor Piazzolla de 1977, comme vous l'avez demandé. Ça. Vous avez connu Astor Piazzolla?
Oui, oui, à Buenos Aires. Moi, je me suis vécu à Buenos Aires jusqu'à l'âge de 16. Et il était à Buenos Aires, vous savez, il n'était pas français. Il y a des Français maintenant qui pensent, ils doivent être français.
Ça, c'est un effet de la mondialisation.
Thank you.
mieux de ce que je pensais.
C'est ce que vous nous avez demandé. Expulsion non, au bien. Pluriel, brutalité et complexité dans l'économie globale, Saskia Sassen. C'est un livre traduit par Pierre Guglielmina, qu'on peut trouver désormais en édition française. Donc chez Gallimard, je rappelle que vous discuterez ce soir avec Pierre Rosanvallon à 20h autour de la citoyenneté au Quai d'Orsay dans le cadre de cette Nuit des idées. C'est complet, mais l'intégralité de ces débats, d'ailleurs jusqu'à 2h du matin et depuis 18h, sera retransmise en streaming, c'est-à-dire au moment où vous parlerez, sur les sites de l'Institut français, de France Diplomatie et bien entendu, avant toute chose, de France Culture sur France Culture+. Plus d'informations sur les réseaux sociaux, hashtag Nuit des idées. Merci beaucoup d'être venu.
C'est un grand plaisir.
Et merci à vous, Sylvain
merci
Bourmeau.
Beaucoup.
La Grande Table, vous pouvez la retrouver sur Twitter, sur Facebook, bien sûr la réécouter, la podcaster sur notre site franceculture.fr qui a fait peau neuve. La Grande Table, c'est Raphaël Bourgois, Clémence Marie, Jeanne Aléos, Henri Leblanc, Antoine Sims. À la réalisation cette semaine, David Jacubeauviez et à la prise de son, Nicolas Delmas et Thibaut Germèze.